Bonjour Fabrice et bonjour à tous. Aujourd'hui un sujet de controverse, Napoléon et l'esclavage. Je suis pour les blancs parce que je suis blanc, je n'ai pas d'autre raison et elle est bonne. Napoléon au Conseil d'État en 1802. D'histoire. En 1802, Bonaparte, alors premier consul, revenait sur un des acquis les plus importants de la Révolution. En 1794, la Convention avait fait de la France un des premiers pays du monde à abolir l'esclavage. 8 ans plus tard, la loi du 30 Floréal en 10, le 20 mai 1802, décidait de le maintenir dans les colonies où il n'avait pas disparu. La même année aussi, Bonaparte envoyait aux Antilles des forces considérables pour y réprimer brutalement l'agitation qui s'y était développée. L'intérêt de Napoléon pour les colonies et le rétablissement de l'esclavage font partie des aspects les plus contestables et les moins connus de sa politique. Jusqu'à ce que le 2 décembre 2005, des manifestations voilent de quelques nuages le célèbre soleil de la bataille d'Austerlitz. France Inter, Denis Astagnaud.
France Inter. Vive l'empereur d'un côté, abat Napoléon de l'autre, le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz divise les Français. Dominique de Villepin et ses ministres restent particulièrement discrets sur ces commémorations du bicentenaire. Cela n'empêche pas les opposants à Napoléon de les accuser de cautionner un tyran sanguinaire. Ils étaient quelques centaines cet après-midi à manifester devant les Invalides, là où se trouve le tombeau de Napoléon.
5 ans qu'ont subi les commémorations de Napoléon, faits par des historiens et des politiques qui ne disent pas toute la vérité.
Napoléon. Pour moi, dans Yabon Napoléon, il y a tout. Il y a à la fois l'esclavage, il y a la colonisation et il y a aussi le foutage de gueule.
Sur mon t-shirt, il y a marqué Napoléon Bonaparte, assassin. Napoléon a rétabli l'esclavage. Je suis martiniquais, je suis donc forcément né d'un crime contre l'humanité.
Alors Napoléon, responsable d'un crime contre l'humanité, qui aurait même, selon un livre de la même époque, inspiré le génocide hitlérien, voilà ce que l'on pouvait entendre ou lire l'an dernier, à la veille du 200e anniversaire de la bataille d'Austerlitz. Alors pour distinguer le vrai du faux et la politique de l'histoire, j'ai fait venir dans cette émission 2 historiens pour nous rappeler ce qu'a vraiment fait Napoléon dans les colonies peuplées d'esclaves. Thierry Lenz et Marcel Dorigny, bonjour.
Bonjour.
Alors Marcel Dorigny, vous êtes professeur à Paris 8, et vous Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon et auteur d'un livre, Napoléon, l'esclavage et les colonies, dans lequel vous insurgez contre ce qu'on vient d'entendre. Vous dites en somme, c'est à la fois faux et insultant.
Oui, je dirais que d'abord, ce qu'on a entendu dans le reportage, c'est qui consiste à dire qu'on a découvert le 2 décembre 2005 que Napoléon avait rétabli l'esclavage, c'est évidemment faux.
On en parlait peu,
mais il y avait beaucoup de livres. Je dirais qu'on ne peut pas obliger les gens à lire les livres. Il y avait notamment le livre d'Yves Benoît, la démence coloniale. Il y avait beaucoup d'études qui avaient été faites et personne n'avait essayé de cacher ça. C'était un petit peu... Les historiens de Napoléon ne s'étaient pas penchés sur la question pour des tas de raisons. D'abord, c'est vrai parce qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec le rétablissement de l'esclavage. Mais surtout, c'était, ils ont considéré ça, puisque l'affaire napoléonienne est essentiellement européenne, comme un théâtre secondaire et comme, je dirais, des opérations d'abord où Napoléon n'était pas non plus. Donc ça intéresse moins, je dirais, les historiens et leur public en général. Quant à la façon dont les choses ont été présentées en 2005, j'utiliserai les expressions qu'utilise un historien italien qui s'appelle Luigi Massili Migliorini. Il dit toujours que l'histoire d'une chose n'est pas la chose. Alors on pourrait rajouter que la mémoire de la chose n'est pas non plus l'histoire de la chose.
Marcel Dorigny, vous avez préfacé justement le livre d'Yves Benoît que vient d'évoquer Thierry Lenz, La démence coloniale sous Napoléon. Vous n'êtes peut-être pas du même avis, et plutôt de ceux qu'on a entendu tout à l'heure.
Non, je n'irai pas dans ce sens-là. Le livre d'Yves Benoît, qui avait été publié pour la première fois en 1992, dans une relative indifférence, il faut bien le dire, des grands journaux qui avaient relativement peu rendu compte de l'importance de cet ouvrage, a ouvert la voie. Il a montré très bien dans quel contexte le consulat est né, dans quel contexte colonial, dans quel contexte intellectuelle, idéologique, quelle était la formation de Napoléon et quelles sont les étapes de ces projets coloniaux dont l'affaire de Saint-Domingue et de la Guadeloupe fait partie à part entière.
Alors justement, on va en parler, où il faut revenir pour comprendre cette polémique de 2005, il faut revenir loin dans le passé, à l'époque des colonies, puisque c'est là que se trouvait la majeure partie, l'essentiel des esclaves sur un territoire qui était français, dans un empire colonial qui était très modeste, Thierry Lenz, à l'époque, c'est essentiellement, pas seulement, mais essentiellement les Antilles.
Oui, alors c'est un empire colonial qui est modeste parce que il a perdu beaucoup
Canada,
de plumes pendant la fin de l'Ancien Régime et la Révolution, mais c'est quand même un empire qui se concentre en deux endroits, les Antilles, Saint-Domingue, la Guadeloupe, bientôt au retour de la Martinique avec la paix d'Amiens, la Guyane.
La Martinique, il faut le savoir, ayant été occupée par les Anglais dès le début de la guerre de la Révolution.
Oui, et puis une autre partie dans l'océan Indien, l'actuelle Réunion, l'île Maurice, quelques îles autour de celle-ci sont les deux grands pôles, mais avec des espoirs, en cas de paix avec l'Angleterre, de se rétablir aux Indes, de récupérer les comptoirs africains, etc.
Enfin, un empire très modeste. L'essentiel étant, et notamment avec Saint-Domingue, c'est quand même les Antilles. J'étais frappé parce que les Antilles, c'était Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est une île moitié française, moitié espagnole. L'Ouest est français, ce sera Haïti. Haïti, qui est aujourd'hui un des États les plus pauvres du monde. À l'époque, c'était vraiment le fleuron de l'empire colonial. Un commerce considérable, c'était vraiment une fortune. Ça représentait l'essentiel des richesses coloniales de la France.
Empire modeste par sa superficie, par son impact en quelque sorte sur la carte du monde, mais en réalité, ce repli insulaire de l'empire colonial a été un choix qui a été fait au moment de la défaite de la guerre de 7 ans, les îles à sucre plutôt que les arpents de neige. Voilà, quel a été le choix qui a été fait par Louis XV, enfin par Choiseul plus exactement, à ce moment-là. Et les richesses dégagées par notamment Saint-Domingue, qui assure à peu près 85% de la production de sucre, sont considérables. Les réexportations de sucre de Saint-Domingue à la fin de l'Ancien Régime, à elles seules, suffisent pour rééquilibrer la balance commerciale française qui, sans cela, était déficitaire.
Et le donc, sucre, le
un
sucre,
enjeu
oui,
énorme.
Et puis un enjeu aussi important, parce que le sucre, c'est évidemment un demi-million d'esclaves pour 30 000 blancs, je crois, hein, dans cette île, et un demi-million d'esclaves dont on devine évidemment comment ils ont accueilli l'annonce de la Révolution française quand ils en ont appris le déclenchement en 1789.
Ouvrez bien vos oreilles, ça vient d'être voté à Paris. Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ses droits sacrés. Le but de la société est le bonheur commun.
Les nègres aussi ?
J'ai dit tout le monde, Bourgogne. Article 2, ces droits sont l'égalité, la liberté.
Vive la liberté !
Vive la liberté ! Vous saviez pour républicain qu'elle s'en était le sang du nez. Son rang parmi les humains, passage des clercs et matins, qui étaient esclaves en naissant, punis de mort pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était plein de son sang, de son sang. Daignez m'épargner tout le reste. Daignez m'épargner tout le reste. Faisant pour les servir encore des tentatives inhumées. Et contre le complot pervers, c'est la nature qui proteste. Et le peuple pris sans le fer, ont malgré la distance des mers, stance des mers, fini par s'entendre de reste. Fini par s'entendre de reste.
La liberté des nègres, une très belle chanson de la Révolution française qui a dû avoir un impact considérable aux Antilles quand on apprend la déclaration des droits de l'homme, Marcel Dorigny, mais c'était pas l'abolition de l'esclavage encore.
Absolument pas. La déclaration des droits de l'homme a été accueillie avec enthousiasme par les colons blancs qui ont vu dans la proclamation de la liberté des colonies, c'est-à-dire l'émancipation des colons, de la tutelle de la métropole.
Comme les Américains.
Comme les Américains, voilà. Comme les Américains avaient fait avec l'Angleterre quelques années avant. Donc c'est la révolte blanche, l'autonomisme blanc qui ouvre la voie à des troubles révolutionnaires aux Antilles. Troubles qui avaient commencé bien avant la Révolution, mais qui vont évidemment avoir une sorte de boulevard qui s'ouvre devant, en espérant évidemment obtenir ce que l'Ancien Régime n'avait jamais donné, c'est-à-dire l'autonomie interne.
Et notamment, évidemment, le soulèvement de Toussaint Louverture l'abolition de l'esclavage qui intervient quand même par la Convention en 1794. Donc l'esclavage est aboli dans toutes les colonies, mais sauf à la Martinique, puisque la Martinique est anglaise, hein, Thierry Lenz. Alors, quelles étaient les idées, quelle idée se faisait à l'époque, c'est important de le savoir, Napoléon de l'esclavage? On dit qu'il n'avait pas d'idée préconçue sur l'esclavage. On rappelle qu'en Égypte, pendant la campagne d'Égypte, il avait même aboli l'esclavage en Égypte.
Non, il a aboli l'esclavage à Malte, mais il l'a maintenu en Égypte. Mmh. C'est-à-dire qu'il avait une attitude, comme assez souvent avec ce personnage, une attitude pragmatique et utilitaire des mesures qu'il prenait. Au moment où il est arrivé au pouvoir, on aura peut-être l'occasion de dire tout à l'heure qu'il a été entouré et très soigné, on peut dire, par un fort lobby colonial qui l'entourait.
Mais Joséphine, qui était créole déjà.
Mais je dirais qu'il n'avait pas besoin de Joséphine. Oui. Il avait quand même comme un de ses conseiller en affaires coloniales était Barbé Marbois, qui avait été intendant de Saint-Domingue. Cambacérès avait été l'avocat des planteurs, et ainsi de suite. Le personnel du ministère de la Marine et des colonies était celui de l'Ancien Régime, donc tous ces gens étaient, plutôt des colonialistes et des esclavagistes. Quant à Napoléon lui-même, il a eu l'occasion à plusieurs reprises de se prononcer sur ces sujets, et disons jusqu'à ce que l'affaire de Saint-Domingue se gâte, il était partisan du statu quo, c'est-à-dire du maintien de l'abolition. Oui. Et dans les mémoires de Cambacérès dit, on avait beau lui dire tout ce qu'on voulait, lui démontrait que Toussaint Louverture jouait un double jeu, il ne voulait pas céder, il voulait en rester à l'abolition.
Alors ce qui l'intéresse dans cette affaire, c'est pas tellement l'esclavage ou non, c'est surtout, et vous le rappelez aussi Thierry Lenz, un projet colonial extrêmement ambitieux dans les Caraïbes. Il voulait en faire une espèce de mer française. Il faut rappeler qu'à l'époque, on avait la Louisiane.
Oui, disons que le projet était économique au départ, c'est-à-dire que homme du XVIIIe siècle, entouré d'hommes du XVIIIe siècle, Napoléon voyait encore la richesse de la métropole dans l'exploitation des colonies. Et il y avait une possibilité de développer aux Antilles, et, dans le golfe du Mexique, un véritable empire français, puisque comme vous le disiez, la Louisiane était française, la partie est de Saint-Domingue était espagnole, et l'Espagne l'avait d'ailleurs cédé dans un traité secret à la France, la Guyane était française et le reste du tour du golfe du Mexique était espagnol, l'Espagne étant l'alliée de la France. Donc il y avait dans son esprit cette possibilité de relancer le commerce colonial, d'enrichir la métropole en contrôlant les îles à sucre.
D'où la volonté, l'acharnement avec lequel il demande au moment où il fait la paix avec l'Angleterre, pendant la paix d'Amiens, à récupérer, et ça se passe d'ailleurs, à récupérer la Martinique où subsiste justement l'esclavage puisqu'il n'avait pas pu être aboli, la Martinique étant anglaise à l'époque. Alors, en tout cas, ce grand projet suppose évidemment le rétablissement de l'ordre dans ces Antilles qui sont agitées depuis le début de la Révolution, d'où la décision qu'il prend en 1801 d'envoyer à Saint-Domingue le mari de sa sœur Pauline, le général Leclerc.
Aux Antilles, une poignée d'esclaves révoltés ont incendié les plantations, massacré les blancs et instauré une sanglante tyrannie. J'envoie le général Leclerc avec 7000 hommes d'élite, grenadiers, carabiniers, hussards, artilleurs, les meilleurs soldats de l'Europe, rétablir l'ordre à Saint-Domingue.
Section, halte !
Prenez 10 nègres et un blanc. Le blanc possède tout et ne fait rien. Les nègres font tout et n'ont rien. Voilà Saint-Domingue.
La France avant la Révolution.
Mon cher, vous n'avez pas comparé les Français et les nègres. Les Français étaient mûrs pour la liberté. Les nègres, je les connais, moi, avec eux, il n'y a que la trique.
Mes généraux, pas de politique. La liberté, les Noirs l'auront un jour. Mais en attendant, nous allons là-bas pour rétablir l'ordre. Ce sera dur.
Ce dialogue-là, est-ce que c'est un film de fiction? C'est un film de fiction, hein, mais est-ce que c'était, je suppose, ce qu'on entendait? C'est beaucoup évoqué dans le livre d'Yves Benoît que vous avez préfacé, Marcel Dorigny, le racisme qui était, évidemment, qui existait. Napoléon, disant, on l'a entendu, je suis pour les Blancs parce que je suis blanc.
Voilà, conception raciale de la hiérarchie coloniale, extrêmement courante, extrêmement banale dans les milieux qui ont été rappelés tout à l'heure, du ministère de la Marine et du bureau des colonies de l'Ancien Régime, qui reviennent en force avec la prise du pouvoir par Bonaparte après le coup d'État. Beaucoup d'ailleurs avaient été émigrés sous la Révolution et sont revenus à ce moment-là. Alors, ce dialogue que l'on vient d'entendre là, c'est effectivement ce que dit et le discours que tiennent les plus proches, je pense à De Cresse par exemple, autour de Napoléon, qui lui explique que rétablir l'ordre dans les colonies n'est pas possible sans le rétablissement de l'esclavage. Alors il faut rappeler, et ça n'a pas été souligné, que Toussaint Louverture à Saint-Domingue avait promulgué une constitution. Une constitution qui, tout en rappelant la fidélité à la France, était en fait une constitution semi-indépendantiste ou très largement autonomiste. Et c'est là, évidemment, que le heurt ne pouvait qu'avoir lieu. C'était impossible que Bonaparte accepte cette constitution qui faisait de Saint-Domingue une sorte de république associée à la France.
Alors, cela dit, quand Leclerc arrive, c'est pas pour rétablir l'esclavage, il n'en est pas question. Et il a en face de lui, quand même, Toussaint Louverture, qui est véritablement un proconsul, une espèce de vice-roi à Saint-Domingue. Et alors, en fait, ce qu'il est chargé de faire, Leclerc, par son beau-frère, par Napoléon, c'est évidemment de mettre sur la touche Toussaint Louverture, Thierry Lenz.
Oui,
il va d'ailleurs l'envoyer en France, oui, au fort de jour.
On peut peut-être souligner, à l'appui de ce qui a été dit tout à l'heure, que l'expédition Leclerc est une expédition qui est comparable, voire supérieure en puissance et en moyens déployés à l'expédition d'Égypte. C'est dire que le sujet antillais était pris très très au sérieux. Donc Napoléon y a nommé, en plus, vous le disiez, son beau-frère, mais qui était, en plus d'être son beau-frère, un général qui avait géré des territoires pendant la Révolution, avec pour mission, effectivement, au départ, il y a dans les très longues instructions de Napoléon à Leclerc, je dirais que dans une première phase, il doit faire les choses avec doigté pour parvenir à éliminer les généraux noirs qui sont autour de Toussaint Louverture. Après quoi, il doit remettre en place l'administration coloniale, disons pour simplifier, sans pour autant que ces instructions ne concernent le rétablissement de l'esclavage, comme vous l'avez souligné.
Alors, pas plus qu'à la Guadeloupe, qui elle aussi est agitée depuis le début de la Révolution, et notamment lorsque Napoléon nomme comme capitaine général de la colonie le contre-amiral Lacrosse, qui va déclencher une révolte. Il déteste de voir porter des Noirs porter l'uniforme français.
L'uniforme d'officier.
L'uniforme d'officier
de soldats français. Ça posait pas de problème.
Alors, il va y avoir une insurrection de Louis Delgrès, contre laquelle Napoléon va envoyer en 1802 une autre expédition militaire commandée par le général de division Richepanse, chargé de mater la révolte du colonel Delgrès.
Colonel, regardez.
Des insensés qui, comme par le passé, méconnaîtraient le pouvoir légitime. Il n'y a pas de doute. Il s'agit de nous. Et il promet que sur nos têtes éclaterait la vengeance nationale. Richepanse, le gros de son armée a débarqué hier. Il est là pour préparer notre retour à l'esclavage.
Enfin, Louis, pour quelle raison?
À cause de cette foutue canne à sucre. Mes amis, citoyens de la Guadeloupe, on en veut à notre liberté. Sachons la défendre en gens de cœur.
Vive la liberté! Vive la liberté!
Alors, ce n'est pas la liberté que va apporter le général Richepanse et ses troupes qui vont écraser le soulèvement des Guadeloupéens. Delgrès est tué. 3000 Guadeloupéens sont déportés en France. C'était terrible aussi, cette répression en Guadeloupe. C'était la Guadeloupe et Saint-Domingue, c'était vraiment là où s'est passé le plus de choses à cette époque.
Voilà. Alors, la différence entre Guadeloupe et Saint-Domingue, c'est que en Guadeloupe, le corps expéditionnaire de Richepanse a gagné. Il a réussi l'opération, il a réussi la reconquête, il a réussi, il faut bien le dire, l'extermination des derniers défenseurs. Les 300 environ soldats qui s'étaient repliés dans la forteresse de la Matouba avec Delgrès se sont suicidés collectivement. On fait sauter la forteresse, on fait sauter les tonneaux de poudre à canon qu'ils avaient disposés. Et ça a été la capitulation des survivants. Donc, réussite pleine et entière de l'expédition Richepanse qui rétablit l'esclavage.
Et au moment, justement, précisément, voilà, où en France, c'est le tournant, cette fameuse loi très contestée, cette loi de Floréal 1802, en 1802, en mai 1802, une loi dont on dit souvent qu'elle rétablit l'esclavage. Or, quand on lit ceci, l'article le plus contesté. Article 1er, dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois. Alors, Autrement dit, il s'agit de maintenir l'esclavage là où il n'avait pas été aboli. C'est le cas à la Martinique, puisqu'elle était anglaise quand il y a eu l'abolition. Mais il ne s'agit pas d'un rétablissement de l'esclavage. C'est ce que vous dites, en tout cas, Thierry Lenz.
Oui, mais nous, ce que nous disons avec Pierre Brandat un peu plus loin, c'est que au mois de juillet suivant, Napoléon expédie deux ordres, l'un au, disons, au gouverneur de la Guyane et l'autre à Rochambeau, qui a succédé à Leclerc, en leur disant de rétablir l'esclavage, y compris, je dirais, en dehors de la loi. Mmh. Alors, je dirais, c'est vrai que la loi, elle, est douce, mais dans l'exposé des motifs, il y a un discours de Decret qui annonce bien, bon, c'est un premier pas, on va déjà
on retourne
et puis on y retournera. Ouais.
Mais c'est pas dans la loi, hein, effectivement.
C'est pas dans la loi elle-même, mais c'est dans les instructions qui vont accompagner l'application de la loi.
En tout cas, ça va provoquer un déclenchement d'une nouvelle révolte à Saint-Domingue, hein, lancée par un ancien esclave venu d'Afrique. Plus important peut-être finalement dans l'histoire, enfin aussi important en tout cas que Toussaint Louverture, c'est Dessalines. Et là, l'armée de Leclerc, l'armée qu'avait envoyé Napoléon à Saint-Domingue, va se faire littéralement pulvériser ou battre. Ça, c'est vraiment un immense échec de Napoléon. On en parle peu, comme on a peu parlé de la guerre d'Espagne, mais à Saint-Domingue, ça s'est très mal passé également, Marcel Dorigny.
L'annonce du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe est véritablement un coup de tonnerre à Saint-Domingue. Ceux des gens de couleur, comme on disait là-bas, qui n'avaient pas vraiment vu clair dans le jeu, dans la menace qui arrivait, d'un seul coup, ont pris conscience que ce qui les attendait, c'était le rétablissement de l'esclavage. D'où ce front qui va se mettre en place contre les Français. Leclerc parle de guerre des races, et cette fois c'est inexpugnable, on ne peut plus rien faire. Les dernières lettres de Leclerc à son beau-frère sont absolument désespérées. Il demande des renforts, il demande de l'argent, et il dit nous sommes perdus, si vous ne nous envoyez pas immédiatement des renforts, la colonie est à jamais perdue.
C'est du ce que j'ai perdu depuis 6 mois, 24 000 hommes pour rien.
On perdra la colonie. Elle est perdue. C'est moi qui l'ai perdue.
Tu as fait l'impossible.
Un mot que ton frère n'entend pas. Impossible.
Je lui dirai, moi, comme tu étais courageux.
Non, ce n'est pas du courage qu'il fallait. Il fallait que je réussisse. Et je voulais réussir, moi. J'en avais assez d'être le beau-frère. Le mari de sa sœur.
C'était la mort du général Leclerc. Il faut rappeler que son armée a surtout été décimée par la fièvre jaune. Hein.
Oui,
on l'a
oui,
pas dit,
oui.
c'est pas par les balles de Dessalines. Mais il meurt donc en novembre de la fièvre jaune, en novembre 1802, remplacé par un personnage alors épouvantable, Rochambeau, le fils du maréchal qui avait sauvé l'Amérique ou aidé l'Amérique à être indépendante. C'est pas ce Rochambeau-là, c'est son fils qui arrive, alors qui déclenche, qui met la Saint-Domingue à feu et à sang. Ça a été épouvantable, ce que vous appelez, Thierry Lenz, la guerre des couleurs.
Oui, c'est en fait un autre historien qui a utilisé cette expression, mais Rochambeau est effectivement un fou furieux qui pratique à la fois le massacre de ses ennemis, mais aussi à certains moments le massacre de ses amis. Il fait par exemple décimer des compagnies ou des bataillons noirs au prétexte qu'il y a le risque qu'ils retournent leurs armes contre l'armée coloniale.
On a même dit qu'il avait tué des noirs en les mettant dans des soutes de bateau avec du gaz, d'où l'idée de génocide, d'avoir bon.
Oui, alors cet épisode, écoutez, on a cherché un peu partout, on l'a pas trouvé, mais sans doute, probablement, Rochambeau était capable de ça. Dans son grand fait d'armes, c'est d'avoir importé des dogues de Cuba et d'avoir organisé des espèces de jeux du cirque, hein, pour faire dévorer les esclaves
par
en fuite,
chiens,
etc.
La violence était partagée, vous le rappelez, il y a une extrême violence aussi contre les Blancs à ce moment-là.
Oui, on n'aura probablement pas le temps de parler de l'indépendance d'Haïti, mais un des premiers actes des Noirs arrivant au pouvoir à Haïti a été, bon, d'abord de se débarrasser au maximum des métis, puis ensuite d'organiser le massacre des Blancs afin d'effrayer la métropole pour bien veiller à ce que plus jamais les Blancs ne reviennent à Haïti.
Et cela, donc, cette guerre violente, brutale, cruelle que mène Rochambeau, en plus, ne sert à rien. Il va se rendre avec Dessalines. Haïti va devenir indépendante. C'est la fin de ce rêve colonial de Napoléon, qui va se détourner, d'ailleurs, de ce rêve des Antilles, des Caraïbes, puisqu'il va vendre la Louisiane en 1803, juste après. Il s'occupe préoccupe de problèmes continentaux. Cela dit, quand même, à la fin de sa vie, comme, enfin, en tout cas, de son règne, comme poursuivi par les remords, il ne rétablit pas, enfin, il n'a n'abolit pas l'esclavage, mais il abolit la traite, Marcel Dorigny.
Oui, alors l'abolition de la traite est une des décisions peut-être les plus surprenantes de la toute dernière période de Napoléon.
En 1815, oui.
Voilà, au moment des 100 jours. Alors c'est une décision bon, qui n'aura pas de conséquences immédiates, puisque la traite, dans le contexte du moment, ne pouvait guère se pratiquer. Mais c'est une sorte de rivalité avec l'Angleterre. L'Angleterre avait aboli la traite en 1807, se présentant donc à la face du monde comme un pays de liberté, comme un pays apportant la liberté aux autres peuples. Et là, il y a une rivalité, et je pense qu'il y a une question de prestige tout autant que de conviction ou d'efficacité. D'ailleurs, la traite va mourir sur le plan international au moment du congrès de Vienne, qui va la mettre hors la loi. C'est vrai que Napoléon a anticipé.
Quant à l'esclavage en France, c'est en 1848 qu'il va disparaître. Il faut rappeler quand même, pour revenir à cette polémique, je l'avais dit ce matin dans le 6-7, il faut rappeler quand même que on a pesté contre Napoléon parce que il avait rétabli l'esclavage. Il faut rappeler qu'au moment où il le fait en 1802, aucune grande puissance ne l'avait encore aboli, ni les États-Unis, ni l'Angleterre.
Bien sûr, la France a été le premier pays à abolir l'esclavage dans le cadre double d'une insurrection d'esclaves victorieuse et d'une révolution radicale en France. Le retournement du rapport de force à Saint-Domingue, en Guadeloupe, pardon, va permettre le rétablissement de l'esclavage, et la fin de la République en France permet.
Oui, pour terminer, en vous montrant que tout n'est pas bien qui finit bien, la chute de Saint-Domingue a permis la promotion de Cuba, et parce que les colons espagnols de Cuba se sont dit, bah tiens, il y a plus cette production importante à Saint-Domingue, on va les remplacer. Et pour le faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben ils ont repris la traite et ils ont importé quelques centaines de milliers d'esclaves dans Cuba.
Oui. Quelques-uns de ces colons de Cuba étaient des colons de Saint-Domingue.
Je suppose que à Saint-Domingue, dans des pays qui sont aujourd'hui des départements d'outre-mer, c'est-à-dire les Antilles, à La Réunion aussi, c'est parce qu'on n'a pas parlé de La Réunion, mais là aussi c'est passé à peu près la même chose, il n'y a pas eu la violence qui s'est produite aux Antilles. Mais quelles traces ont été laissées par cette politique coloniale de Napoléon, et notamment son attitude vis-à-vis de l'esclavage, Marcel Dorigny?
La trace la plus profonde, la plus durable, c'est la naissance de la première République noire d'Haïti. C'est vraiment, dans la longue durée, c'est la conséquence immédiate, la plus longue, la plus importante, de l'échec de la politique de Napoléon. Ensuite, bien sûr, c'est le rétablissement par la violence dont nous avons parlé en Guadeloupe, qui a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui dans la conscience collective des Guadeloupéens, qui voit en 1802, vous voyez, le symbole de l'horreur de l'esclavage et de cette première forme de colonisation. Alors évidemment, en Guadeloupe, c'était des événements directs. En Martinique, c'est indirect, puisque l'esclavage n'a pas été rétabli, faute d'avoir été aboli. Pourtant, en Martinique aujourd'hui, il y a une sorte de récupération de cette mémoire d'événements qui ont eu lieu en Guadeloupe et qui rejaillissent sur la mémoire de Joséphine, qui est accusée, qui est martiniquaise donc, qui est accusée d'avoir été complice du rétablissement de l'esclavage. Et vous savez bien que sur la place de la Savane à Fort-de-France, sa statue est décapitée.
Non, je savais pas. Mais parce que la Martinique semble effectivement avoir été un petit peu mise à l'écart de tout ça. La Réunion n'a pas parlé des autres colonies, mais enfin évidemment, c'est essentiellement dans les Antilles que tout ça s'est passé. En tout cas, Marcel Dorigny et Thierry Lenz, je vous remercie d'être venu avec nous. Thierry Lenz, je rappelle que vous êtes l'auteur avec Pierre Branda de Napoléon, l'esclavage et les colonies, récemment publié chez Fayard. Et vous, Marcel Dorigny, vous avez co-dirigé et préfacé plusieurs livres d'Yves Benoît, dont La démence coloniale sous Napoléon, publié en poche aux éditions de La Découverte. Et vous publiez, je crois, le 5 octobre prochain avec Bernard Guénaud, un atlas historique des esclavages aux éditions Autrement. À lire aussi, parmi les livres publiés récemment, Journal des opérations militaires de l'armée française à Saint-Domingue, présenté par Jacques Dussart aux éditions de Paris Max Chatteil. La traite des Noirs, 1440-1870, Duc Thomas, un gros livre très complet, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Et enfin, pour en finir avec la repentance coloniale, de Daniel Lefeuvre chez Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits des films Sucre amer de Christian Lara, disponibles en DVD aux éditions Les Films du Paradoxe, et Vénus impériale de Jean Delannoy. Toutes ces références, ainsi que celles d'autres livres, sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac.